Oula.
Remue ménage. Ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, je vous retrouve de 17h à 18h30. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose la rediffusion d'une émission que nous avions réalisée il y a 6 mois et où j'avais reçu Clotilde Halenik. Clotilde Halenik est une des fondatrices de l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens et une des rédactrices fidèles du journal Une Terre, Deux Peuples. Alors, pourquoi avoir envie de rediffuser cette émission? Eh bien, c'est parce que l'actualité nous le dicte. La Palestine est à l'ordre du jour de nouveau dans une situation dramatique. Les 400 personnes exilées par le gouvernement israélien et non reçus, non acceptés par les Libanais. Tout ceci qui met fort en péril la discussion sur le processus de paix et donc l'importance de reparler de ce qui se passe dans les territoires occupés au moment où les violences à nouveau se font très fortes contre la population des territoires occupés. La semaine prochaine, eh bien, vous pourrez entendre une autre rediffusion, l'émission que nous avions réalisée à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, où vous pourrez entendre une représentante du réseau des femmes vivant sous loi musulmane, ainsi qu'une membre de l'association Aspasie, association qui défend les prostituées à Genève. Voilà, alors je vous souhaite une bonne semaine et maintenant c'est de la musique palestinienne. S'est rencontré il y a, je crois, un mois après la conférence de Amira. Ah, c'était il y a un mois déjà, hein? Je crois. Moi, j'ai les semaines, c'est cool tellement vite qu'on ne sait plus rien du tout, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Et c'est ce jour-là que je t'ai demandé si tu étais d'accord de venir nous parler pour Ondes Femmes et Remue Ménage en particulier de l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens, parce que, bon, il y a déjà quelque temps, tu avais fait une interview pour notre radio pour raconter un voyage que tu avais effectué dans les territoires occupés. Je pense qu'il était temps qu'on ait des nouvelles choses à raconter à propos de cette association, d'autant plus que cette association s'est créée et est devenue une association solide entre-temps, et on a, c'est important d'avoir des nouvelles. Je suis d'autant plus contente que ça fait la troisième émission d'affilée qui va évoquer les problèmes de la Palestine, puisque dans Remue-Ménage, on a eu d'abord la conférence d'Amir Haas, donc syndicaliste israélienne, qui est venue nous parler des conditions de travail, en particulier des travailleurs palestiniens et de leurs difficultés à aller en Israël après la guerre du Golfe, pendant, etc. Et puis, ensuite, la semaine passée, on a évoqué une écrivaine palestinienne qui a publié un livre récemment racontant un peu son histoire. C'est ce livre qui nous a été présenté par nos amis d'Inédit. Et troisième émission, c'est toi qui vas nous évoquer le travail de l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens. Je crois qu'il serait important que pour nos auditrices et nos auditeurs, on révoque qu'est-ce qui a amené à la création de cette association.
Bon, au début, il n'y avait aucune intention de créer une association. Ça a commencé par mon histoire à moi, tout bêtement. En tant que femme juive qui se trouvait en désaccord avec l'opinion de sa propre famille, de la société juive en général, je suis partie dans les territoires occupés à force qu'on me dise que tout ce que je savais, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais entendu était faux, était de la propagande, nourrissait sans le vouloir même l'antisémitisme, le terrorisme, le fascisme, enfin les pires horreurs de la terre. Et je me suis dit, j'ai envie de voir la réalité une fois par moi-même et de pouvoir témoigner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après ce premier séjour dans les territoires occupés, qui a été un choc vraiment terrible, je n'avais pas l'idée ni de faire un journal, ni une association. J'essayais simplement de me faire entendre, de faire entendre ma voix, de toucher des gens. Peut-être j'avais l'idée que j'allais pouvoir toucher la société juive en tout premier lieu. Je me disais, c'est pas possible que tous les juifs se sentent bien avec ce problème de l'oppression des Palestiniens que pratique l'État d'Israël. Sûrement, il doit y avoir un malaise que les gens n'osent pas exprimer, qu'ils ne peuvent pas exprimer, et peut-être qu'ils seront heureux que quelqu'un le fasse à leur place, et peut-être qu'au moins une minorité d'entre eux se ralliera à cette idée, à ce mouvement de dire de l'intérieur, nous disons non au fait de devenir à notre tour des bourreaux. Et lorsque j'ai écrit mes premières lettres de lecteur et mes premiers articles, j'avais la conviction qu'autour de moi allait se regrouper une partie de la société juive, au moins toutes celles de gauche que j'ai connues dans les années 68, qui a milité dans un tas de mouvements, qui sont des gens progressistes, voire révolutionnaires. Et à mon grand étonnement, ça n'a pas été le cas. Et je n'ai recueilli que des insultes, des anathèmes de l'ambassade d'Israël, de différentes communautés juives, de différentes personnes sionistes à leur propre nom. Et jusqu'à ce jour, une toute petite minorité de femmes suisses lisent mon journal, mais ça, enfin, notre journal, hein, c'est devenu depuis. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc, peu à peu, il est devenu impossible de me faire entendre dans les médias parce que les pressions que les journaux qui publiaient mes articles subissaient étaient trop fortes. Je pense que c'est pour cette raison-là que peu à peu, c'est devenu très difficile de faire passer, à part dans certains journaux qui ont déjà une orientation, mais de faire passer des lettres de lecteurs, des prises de position. Donc, petit à petit, je l'ai fait par d'abord une toute petite feuille qui traduisait le bulletin des femmes pour les prisonnières politiques. Ce sont des femmes juives israéliennes qui luttent contre les violations pratiquées dans les prisons israéliennes, envers les femmes spécifiquement. Donc, je traduisais leur bulletin en français, puis j'ai eu une aide pour traduire ce bulletin. Et peu à peu, j'ajoutais une petite lettre, et peu à peu, créer des parrainages pour les enfants de prisonnières qui n'avaient plus de soutien. Tout s'est enchaîné comme ça, sans avoir pris aucune décision. Il est venu d'autres cas de violation qu'on a agrafés avec ce petit bulletin. Chaque fois, on joignait une lettre avec des appels, nos prises de position. Et un jour, on a mis un titre dessus, Une terre de peuple, qui traduisait le mieux ce qu'on ressentait, ce qu'on souhaitait, ce qu'on rêvait. Et lentement, c'est devenu un journal. Et un jour, on a dû créer officiellement l'association, simplement parce qu'on n'a pas le droit de récolter des sous à un nom privé sur la voie publique, et qu'il fallait au moins formellement avoir une association. depuis lors, c'est devenu plus que formel.
Mais donc, ton idée au point de départ était essentiellement de toucher des gens de la communauté juive qui pourraient avoir les mêmes idées que toi, qui ressentaient le même malaise dont tu viens de nous parler.
Oui, à la différence près que peut-être je ne parlerai pas de communauté juive, qui est déjà une fraction organisée de la société juive, mais plutôt de toucher des personnes juives, même qui ne se réclament pas spécialement du judaïsme ou de la communauté juive organisée, mais qui sentent que ce qu'elles ont vécu elles-mêmes, leur passé, leur histoire, les a touchées suffisamment que ça a été assez dur pour elles de se heurter au silence des autres, à la lâcheté, pour ne pas reproduire ça elles-mêmes, pour avoir le courage de prendre position, même contre tout un courant, même contre un État qui se dit l'État juif, des juifs dans le monde.
Alors, tu dis l'idée, le titre que vous avez donné à votre journal, Une terre, deux peuples, c'était en fait l'orientation, ce que vous rêviez, ce que vous vouliez. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu mieux ce que ça veut dire? Parce que, bon, si on voit quelles ont été les revendications, c'était de mettre Israël à la mer et de retrouver la Palestine pour eux. Aujourd'hui, par toutes sortes de reculs tactiques ou stratégiques, ça c'est eux qui le savent, on se trouve dans une situation où on parle plutôt de deux peuples, deux terres. Et vous, vous défendez l'idée d'une terre pour deux peuples?
Je ne veux pas reprendre tout l'historique de la création de l'État d'Israël et des différentes phases qu'a traversé le mouvement palestinien. Mais cette revendication de deux États pour deux peuples est relativement récente. Ça n'était pas le cas dans les débuts de l'OLP, où ces différentes tendances avaient un petit peu le même espoir de recréer une Palestine démocratique et laïque, dans laquelle je crois que ce sont vraiment des petits groupes marginaux qui ont parlé de jeter les Juifs à la mer, mais dans laquelle les gens qui étaient là-bas sur place et qui acceptaient cette idée d'un État démocratique et laïque vivraient ensemble, fraternellement, avec des droits égaux. Donc on est resté un petit peu dans cette tradition-là. Et nous partons du point de vue que les Juifs, que ce soit dans le monde ou en Israël, je veux dire, rêvent du grand Israël, enfin tous ceux qui se réclament du sionisme, rêvent du grand Israël reconstitué, que leur motivation soit religieuse ou pas. Et les Palestiniens, de leur côté, rêvent de retrouver leur Palestine entière, totale. Et ces deux rêves sont incompatibles, ils sont irréconciliables. Ils ne vont pas l'un avec l'autre, puisque l'un exclut l'autre, forcément. Donc la seule façon de les réunir est de dire « Mais pourquoi diviser cette terre? Pourquoi la parsemer de barbelés, de champs minés, alors qu'on est capable de vivre en bonne intelligence, fraternellement, s'acceptant mutuellement ?» C'est notre idéal d'une société démocratique et laïque, dans laquelle l'État ne s'appelle pas un État juif, ni un État arabe, ni un État musulman, soit un État tout court, dans lequel tous ses citoyens sont partie prenante à part égale. Donc c'est une idée démocratique telle qu'elle se pratique dans nos pays occidentaux, ça n'a rien de sorcier, telle qu'elle se pratique en Suisse, par exemple.
Mais aujourd'hui, en tout cas dans la situation apparemment des négociations et des avances et des retraits politiques, il semble que votre optique soit devenue un rêve encore plus en avant que celui des Palestiniens eux-mêmes, en tout cas au niveau officiel de l'OLP. Ils ont même renoncé à ce rêve-là au niveau officiel de l'OLP.
Oui, je crois que la tendance dominante dans l'OLP, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OLP est formée de quatre partis différents, qui ont tous des positions différentes, mais qui se rallient au principe de la majorité. La tendance dominante actuellement est une tendance pragmatique qui, dans l'état de rapport de force actuel, reconnaît l'impossibilité de réaliser son rêve. Donc, fait la concession d'une grande partie de ce qu'elle estime lui appartenir légitimement. C'est vrai que la terre entière de Palestine était la terre du peuple palestinien.
Mais toi, excuse-moi, oui. Quand tu es allée dans les territoires occupés, donc je crois que c'était en décembre 89, c'est ça?
Oui, la première fois en décembre 88, pendant 3 semaines et encore un mois en décembre 89.
Alors quand tu es allée dans les territoires occupés, est-ce que tu as eu la sensation que les gens qui vivent là-bas, les Palestiniens qui sont encore sur ces terres-là, eux, ont ce rêve encore dans la tête?
Je crois qu'ils ne renonceront jamais à l'idée de retrouver leur patrie. Je crois que les 3 millions d'exilés ont conservé en eux-mêmes l'espoir de ce retour, de revoir leur maison, leurs oliviers, leurs citronniers, s'ils n'ont pas été déracinés ou si les maisons n'ont pas été abattues. Et du reste, beaucoup, quand ils le peuvent, ceux des territoires occupés, reviennent des fois errer sur le terrain de leur ancienne propriété, revoir ce qui vit encore. Je crois que leur patrie est encore très présente dans leur cœur et n'en sortira pas facilement. Je crois que les Palestiniens, partout dans leur exil, traînent avec eux leur rêve de retour sur leur terre. Mais bon, encore une fois, ce qui est la direction politique est une chose et ce qui est le rêve des gens en est une autre. Par contre, alors, j'ai parcouru la Cisjordanie et la bande de Gaza dans tous les sens avec des amies israéliennes qui appartiennent à des groupes qui défendent les droits des Palestiniens sur différents terrains contre les violations des droits de l'homme et des droits des femmes en particulier. Et on a vécu cette expérience ensemble, d'aller de famille en famille et de voir quel accueil chaleureux on recevait les unes et les autres. Et partout, c'est pas une exception, partout j'ai dit que j'étais juive, que je venais en amie, les mains ouvertes et pas en conquérante. Et partout, ça a été un accueil extraordinaire. On m'a dit, vous savez, on n'a rien contre les juifs en tant que tels, on n'a rien contre le peuple, on est contre le système, l'armée, la domination. Il y avait une maturité politique étonnante, même chez des enfants très jeunes. Peut-être que depuis lors, les haines se sont exacerbées, mais je ne crois pas totalement, puisque ces groupes israéliens continuent à passer une partie de leur temps dans les territoires occupés, en solidarité avec les Palestiniens, et ont toujours cet accueil inconditionnel. Donc je crois que le niveau de conscience politique est assez grand pour que les Palestiniens fassent la différence entre un système d'oppression et des gens, des personnes, des individus. Et on m'a dit, vous pouvez construire votre maison à côté de la nôtre, vous serez bienvenue. Et si vous n'avez plus de maison, vous serez bienvenue chez nous.
Un appel à l'aide. Les femmes palestiniennes ont besoin de protection. Appel de Maha Nasser. La nuit du mardi 21 janvier était froide et particulièrement noire. Plus de 40 femmes de la région de Ramallah ont vécu une terrible expérience pendant cette nuit. Peu après minuit, des soldats, des policiers et des militants de Shin Bet ont attaqué leur maison. Des haut-parleurs de l'armée venaient d'annoncer l'instauration du couvre-feu nocturne posé sur la région depuis le début décembre 91. Des soldats pointant leurs armes contre des femmes et des enfants ont ouvert le chemin à des militants du Shin Bet. Ces derniers, bandant les yeux des hommes, les ont emmenés dans des centres d'interrogation israéliens. Femmes et enfants sont rassemblés dans l'une des pièces de leur maison. Alors ils ont commencé à mettre les maisons à sac, à les fouiller, éventrant des sacs de farine, vidant le contenu des armoires sur le sol. Ma maison a été fouillée cette nuit-là, sous les yeux de mes enfants. Ils ont vu leurs affaires joncher le sol. Cette nuit-là, je pensais être la seule à vivre cette expérience. Le lendemain, j'ai appris ce qui s'était passé dans les autres maisons. Il m'était difficile de supporter d'entendre les autres raconter ce qu'il était arrivé chez eux. Dans l'une des autres maisons, une explosion a réveillé un père et une mère. En se levant, ils ont vu 2 soldats armés dans leur chambre à coucher qui leur ordonnaient de quitter la maison pour qu'ils puissent la fouiller. La femme, enceinte de 9 mois et mère d'un enfant de 18 mois, a été enfermée dans une pièce où on lui interdit de changer son enfant. Dans une autre maison, les langes d'un bébé lui ont été arrachées par les soldats qui voulaient voir si quelque chose y était dissimulé. Dans une troisième maison, les assaillants sont restés plus de 7 heures. Sur la nuit qui avait commencé paisiblement, s'est levé un jour terrible. laissant des enfants terrifiés et des femmes tentant de remettre de l'ordre dans le chaos laissé par les soldats. Mais le pire de tout, c'est qu'il n'y avait plus de père pour partager le choc. Ils étaient tous emprisonnés. L'un d'eux est un martyr aujourd'hui. Mustapha Akawi est mort sous la torture. Les autres attendent leur sort. Des femmes dans le monde se sont engagées dans le combat pour la libération et l'égalité. Nous sommes solidaires avec elles. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de votre solidarité. Nous avons besoin de protection, nous toutes. Nous toutes qui, à Naplouse, Gaza, Jérusalem, Hébron, voyons nos nuits paisibles tourner en cauchemar. Est-ce qu'en Israël alors, mais en Israël même, il y a aussi parmi la population israélienne des gens qui ont le rêve de votre association et qui se battent pour que peut-être ce type d'idée-là soit discuté en Israël aujourd'hui?
Oui, mais c'est une infime minorité. Ce qu'on appelle la gauche israélienne ou le camp de la paix regroupe majoritairement des gens qui souhaiteraient qu'Israël soit plus gentil, plus humain, traite mieux ses Palestiniens, mais qui adhèrent complètement à l'idée d'un État juif. État juif, si on pense à ce terme, est une prise de position radicalement raciste. C'est un mot d'exclusion. Il exclut l'autre, celui qui n'est pas juif, celui qui est différent. Donc, quelle que soit leur attitude humanitaire, la majorité d'entre les Israéliens de ce camp de la paix ou de la gauche sont favorables à maintenir un État juif et sont favorables à la solution de deux États parce qu'elle les débarrasse du problème palestinien. Le jour où on aura deux États, peu importe que ce deuxième État, cet État palestinien, ne soit construit que sur 20% de ce qui reste de la Palestine, même quelques pierres. Mais au moins, ils auront leur État et ils iront tous là-bas, on pourra s'en débarrasser. Évidemment, ils ont cette arrière-pensée que les 900 000 qui restent en Israël partiront dans les territoires occupés et que le droit de retour pour les Palestiniens, s'il se fait un jour, se fera dans les cailloux de la Cisjordanie ou dans les déserts de la bande de Gaza et pas en Israël même. C'est donc une façon d'évincer le fond du problème que nous, on ne peut pas accepter. Mais il existe une toute petite minorité d'Israéliens qui se bat pour que la justice soit rétablie, ce qui ne veut pas dire, mais pas le moins du monde, qu'on veut se retourner contre le peuple qui vit là-bas, contre les peuples juifs, parce qu'on ne peut pas parler du peuple juif. Il y a les juifs d'origine occidentale qui sont une chose, les juifs d'origine orientale qui ont été près de 50% jusqu'à l'arrivée des juifs soviétiques, qui sont un tout autre type de population, il y a des sociétés juives. Mais loin de nous, notre idée de les évincer, de les expulser à leur tour, pas du tout. Je crois que tous ceux qui sont d'accord avec l'idée d'une coexistence fraternelle doivent pouvoir rester et vivre sur cette terre dont ils rêvent et la partager avec les autres.
Mais aujourd'hui, ce dialogue entre juifs qui ont des idées différentes, enfin, effectivement, je crois que c'est même difficile d'employer le mot dialogue, parce que je crois, comme tu le disais tout à l'heure, il y a au contraire une incompréhension la plus totale, et avec tous les mots que tu as cités tout à l'heure, dont tu avais été généreusement arrosé quand tu as commencé à défendre ce genre d'idées, est donc très difficile. Donc votre association a eu, entre autres, comme objectif de se faire un peu la porte-parole de ces idées-là, pour des gens qui ont de la peine à se faire entendre, y compris en Israël.
Oui, quand tu parles de dialogue, je ne sais pas entre qui et qui tu penses exactement.
Je pensais entre juifs qui, les uns, défendent l'idée d'un État démocratique où vivrait tout le monde dans l'entente et avec le respect de leurs différences, et ceux qui, comme tu le dis, défendent un État qui tient de l'apartheid, où on sépare les juifs et les non-juifs.
Mais je pense qu'au sein des différents groupes qui existent en Suisse et qui ont des positions différentes à ce sujet, le dialogue est amorcé, se fait doucement et normalement. Autre chose est le dialogue là-bas, sur le terrain, entre juifs et palestiniens. Ce dialogue s'est fait à travers une multitude de petits groupes. Il y a eu essentiellement alors des femmes. Les femmes n'étant pas impliquées dans l'armée, n'étant pas des soldats, elles sont soldates, mais disons qu'elles ne vont pas servir dans les territoires occupés, dans les unités de répression. Ça arrive, mais c'est extrêmement marginal. Donc, étant moins compromises que les hommes, que leurs maris, leurs fils, dans l'occupation directe, armée, violente, il leur est plus facile d'accepter l'idée que l'autre femme palestinienne est une sœur, qu'elle aussi a des enfants à élever, qu'elle aussi peut souffrir. Et on voit que ce mouvement de dialogue et de solidarité s'est fait en tout premier lieu parmi les femmes et s'est développé parmi des groupes de femmes. Par contre, alors au moment où la guerre du Golfe s'est déclarée, tout ce mouvement de dialogue s'est effondré, non pas par la faute des Palestiniens, les pauvres, ils étaient sous un couvre-feu qui a duré des semaines, ils ne pouvaient même plus sortir du tout, mais dès que le couvre-feu a été levé, ce camp de la paix, ce camp du dialogue s'est effondré sous ses propres hésitations, sous sa propre inconsistance, en disant « oui, les Palestiniens nous ont déçus, ils ont soutenu l'Irak, on ne peut plus discuter avec eux, ils ont dansé sur les toits quand les scouts tombaient sur Israël ». Donc c'est eux-mêmes qui ont rompu ce dialogue. Et ils se reforment peu à peu, mais sur une base nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est plus le même type de groupe qui vise simplement à parler, à apprendre à des gens que le Palestinien, c'est un être humain comme les autres, ce n'est pas une bête féroce. Et on est tout étonnés en parlant avec eux, de découvrir que c'est des gens comme nous. Mais sur un terrain alors plus clair d'engagement contre les violations qu'ils subissent. Par exemple, nous travaillons avec 4 groupes en Israël. Il y en a peut-être d'autres dont nous ferons connaissance peu à peu et que nous soutiendrons également. Les soutenir, ça veut dire les faire entendre, leur envoyer un peu d'argent quand ils ont besoin, de faire entendre leur voix essentiellement.
Quels sont ces 4 groupes ?
Alors, bon, le premier, c'est les femmes pour les prisonnières politiques, celui que nous avons connu en premier, qui dénoncent toutes les conditions de détention des femmes, qui soutiennent leur famille, leurs enfants restés sans aucun soutien matériel. Le deuxième, c'est Care and Learning, qui veut dire soins et instruction. C'est une femme israélienne, Arna Mer, qui est venue à Genève, que nous avons invitée pour donner une conférence, qui a commencé par... alors que les écoles palestiniennes étaient fermées depuis des mois, elles sont restées 2 ans sans fonctionner, a été horrifiée par le fait que les enfants soient peu à peu désalphabétisés, soient privés de leur droit à la connaissance. Elle dit « l'ignorance est une plaie qui ne se voit pas, mais qui est infiniment plus grave que les blessures corporelles extérieures, qui a des conséquences beaucoup plus graves ». Et elle a voué sa vie au service de l'enfance palestinienne, d'abord en allant dans les camps, dans les rues, distribuer du matériel d'auto-enseignement, faire dessiner les enfants, les faire s'exprimer. Et peu à peu, avec le succès qu'elle a rencontré, le soutien qu'elle a eu et en Israël et en Palestine de la part des comités de femmes palestiniennes, parce que je fais une petite parenthèse pour dire que l'enseignement alternatif a été criminalisé pendant que les écoles étaient fermées. Les femmes palestiniennes qui étaient découvertes en train d'enseigner à des groupes d'enfants, de leur apprendre à lire et à écrire, étaient mises en prison. Ça paraît invraisemblable, mais c'est le cas. Alors que Arna, qui a un passeport israélien, est mieux placée pour se défendre, c'est-à-dire qu'elle dépend de la loi israélienne, ce qui n'est pas le cas pour les femmes palestiniennes. Donc elle peut se défendre sur le plan de la législation israélienne, alors que les palestiniennes dépendent de l'autorité d'occupation armée, qui édicte des décrets tout à fait arbitraires. Donc elle a pu profiter de cette couverture pour créer peu à peu des centres d'enseignement dans lesquels les comités de femmes palestiniennes jouent un rôle actuellement prépondérant. Au début, elle se contentait de distribuer le matériel d'enseignement dans les familles pour que pendant les longs couvre-feux, on puisse travailler en famille ou en groupe de 2 ou 3 familles. Et maintenant, elle a ouvert son 3e centre qui comprend bibliothèque, matériel autodidactique, jeux éducatifs, etc. Et qui sont des centres que les enfants fréquentent d'une façon tournante. Ils se relayent, chacun a droit 2-3 fois par semaine. Il y a des centaines, voire des milliers d'enfants qui fréquentent ces centres dans la zone de Jenin, c'est-à-dire le nord de la Cisjordanie actuellement. Ça, c'est notre second plan d'intervention, de soutien. Le troisième, c'est un groupe qui s'appelle Hotline, qui est intraduisible en français, on pourrait dire ligne d'appel d'urgence, In Defense of the Individual, qui défendent les Palestiniens contre toutes les violations administratives. Carte d'identité déchirée, pas rendue, expulsion, déportation, interdiction de revenir en Palestine après un voyage... les gens frappés d'une façon arbitraire, enfin toutes les violences administratives imaginables. Maintenant, ils sont assez connus pour que les Palestiniens viennent d'eux-mêmes les consulter dans leur bureau à Jérusalem et leur demander d'intervenir. Ils ont une quantité de dossiers qu'ils traitent. Et ils vont jusqu'à la haute cour d'Israël avec ces dossiers. Ils ont pu remporter un certain nombre de succès. Ils travaillent en commun avec des organismes des droits de l'homme, comme B'Tselem, par exemple. Et le quatrième, que tu connais puisque tu as entendu Amira, qui est Workers Hotline, qui défend spécifiquement les travailleurs, qu'ils soient palestiniens ou de n'importe où, parce qu'il y a aussi des nouveaux immigrés éthiopiens ou soviétiques qui vivent des conditions d'exploitation scandaleuses. Il y a aussi des juifs orientaux qui sont exploités, qui ont un statut inférieur, qui vivent des discriminations. Mais évidemment, les Palestiniens sont les plus exploités actuellement. Surtout depuis la guerre du Golfe, où des dizaines de milliers de permis de travail ont été supprimés, par le fait d'interdire aux gens d'entrer en Israël. On leur décerne une carte d'identité verte au lieu de rouge, qui fait qu'ils n'ont plus le droit de mettre les pieds en Israël. Ils n'ont même pas le droit d'aller à Jérusalem.